À la une de l'actualité aujourd'hui, un professeur est élu des Alpes de Haute-Provence dans le viseur de la justice.
Il a été mis en examen pour tentative d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans. Les faits se seraient produits au printemps à Lyon. Les précisions dès le début de ce journal.
Dans le reste de l'actualité, l'étoile de Veynes attend que l'État saute dans le train des financeurs publics.
Alors que régions et départements se sont engagés pour financer de coûteux travaux sur les lignes ferroviaires, le collectif attend toujours un oui, un non ou une réponse de la part de l'État.
Un nouveau boss, hein, pour diriger les gendarmes des Alpes d'Haute-Provence.
Laurent Gros a pris la tête du groupement et il a donné le ton de sa prochaine mission, vous l'entendrez.
Le coup d'envoi des journées du patrimoine ce week-end dans les Alpes du Sud.
On vous emmènera, assisteront à Josier, Embrun et Barcelonnette. Barcelonnette où la villa La Sapinière espère quelques visites et quelques marques d'attention alors qu'elle a été choisie dans le cadre du loto du patrimoine.
Et puis évidemment le sport en fin de journal.
Avec Romaric Pons pour les rendez-vous sportifs du week-end et au programme notamment l'Ultra Raid VTT de la Meije au départ de Villard d'Arennes. Et dans le ciel, on a quoi aujourd'hui au programme?
C'est plutôt agréable même s'il y a quelques nuages qui vont avoir du mal à se dissiper, notamment du dévolu au Champsaur en passant par le Val-Gonnemar et la Haute-Romanche. L'après-midi, quelques cumulus nous apporteront un petit peu d'ombre sur nos deux départements. Les températures maxi, elles sont encore très chaudes pour la saison, hein, de 25 jusqu'à 30-31 degrés. Et on ouvre évidemment ce journal, Quentin, avec ce scandale politico-judiciaire.
Un professeur également élu dans les Alpes de Haute-Provence, mis en examen pour tentative d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans. Une affaire qui remonte à mai dernier à Lyon. C'est une information que vous révèle Alpe 1 ce matin, Cyrielle Michard.
C'est une affaire sensible qui éclabousse le monde de l'éducation nationale et politique des Alpes d'Haute-Provence. Un professeur, directeur adjoint d'un collège privé, conseiller municipal en charge de la jeunesse, des sports et de l'éducation, a été mis en examen. Selon une source proche de l'enquête, le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire au mois de mai dernier pour tentative d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans. Toujours selon nos informations, cet enseignant âgé de 37-38 ans se trouvait à Lyon hors de son cadre professionnel, comme nous l'explique cette même source. Il aurait pris en stop un adolescent avant une agression sexuelle présumée. Le mineur aurait réussi à s'extirper des mains de son agresseur avant de prendre la fuite et aidé par des tiers de donner l'alerte aux forces de l'ordre. Un contrôle judiciaire a dans un premier temps été décidé par le juge d'instruction de Lyon, interdisant à cet enseignant d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs. Une source proche du rectorat d'Aix-Marseille confirme cette information en ajoutant que si cette suspension a été envisagée, elle a été levée après un appel rendu en faveur du professeur. L'arrêt l'autorise donc à nouveau à reprendre son activité depuis la rentrée, ce que confirme le chef d'établissement qui considère à cette heure que l'enseignant est hors de cause et que rien ne l'empêche d'exercer son métier sereinement. De son côté, le maire de la ville a décidé de retirer la délégation de son élu le 28 mai dernier. L'édile explique sur Alpe 1 lui avoir seulement confié la délégation urbaine. Un maire qui se veut toutefois rassurant et rassuré depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel. Rien ne permet de mettre en cause son mandat, ajoute-t-il, avant de rappeler que la présomption d'innocence est la règle pour tous.
Voilà les précisions de Cyril Michard pour Alpe 1. On reste dans les Alpes d'Haute-Provence où un motard lui a été interpellé sur l'A51.
Au niveau du péage de Sisteron Nord, hier en fin de matinée, l'homme n'était plus titulaire du permis de conduire mais chevauchait une 650 cm3, une Suzuki, qui lui a été confisquée sur le champ. Âgé de 56 ans, cet Isérois devra en répondre devant le tribunal de Digne-les-Bains.
On prend la direction de Veynes où le collectif de l'Étoile de Veynes va tenir son assemblée générale demain à Luz-la-Croix-Haute. Le rendez-vous est donné à 9h45.
Les lignes ferroviaires de l'Étoile de Veynes doivent faire l'objet d'une campagne de travaux. Leur coût, 60 millions d'euros. Alors la région PACA, la région Aura, le département des Hautes-Alpes et le département de l'Isère ont annoncé qu'elles participeraient au financement. Lionel Perrin du collectif de l'Étoile a beau refaire la liste plusieurs fois, il y a toujours un manquant à cette liste.
Enfin, les deux régions, donc PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, se sont engagées à financer pour leur part les travaux. Et donc, on attend maintenant la réponse de l'État. Ce qu'on sait, c'est que du côté Auvergne-Rhône-Alpes, les travaux probablement vont se faire dans tous les cas. Simplement, si l'État participe, il est très probable que toute la ligne Grenoble-Gap sera refaite. Si l'État ne participe pas, ce qu'on a compris entre les lignes, hein, il y a plusieurs sources à la région qui nous le disent, c'est que les travaux vont s'arrêter en gare de Clène. Donc, en fait, l'étoile ferroviaire de Veynes, qui a quatre branches, une qui va vers Grenoble, sera amputée pour quelques dizaines de kilomètres, hein, c'est pas beaucoup de linéaires de voies, parce que l'État ne mettrait pas, c'est une hypothèse, on n'en est pas là, ne mettrait pas la main à la poche. Ben, en fait, si ça s'arrêtait, ça serait arrêté entre Clèle probablement et Aspre-sur-Bèche, Donc en fait, concrètement, ça couperait les Hautes-Alpes d'un accès ferroviaire vers Grenoble. Ça doit être 20 ou 30 km de voie. On se retrouve avec une ligne qui est complètement coupée.
Le collectif espère aussi que les députés des Hautes-Alpes feront le nécessaire pour que l'État mette la main à la poche. Mais depuis quelque temps, c'est silence radio chez Joël Giraud.
Le silence qui nous inquiète le plus, c'est le silence de Joël Giraud. Vous savez comme moi que c'est un grand ami et un grand défenseur de l'étoile ferroviaire de Vennes. Et quand il est devenu un ami d'Emmanuel Macron, on s'est dit c'est bien, on va pouvoir compter sur lui. Or là, depuis quelques temps, on n'a plus aucune nouvelle. À mon avis, il doit quand même avoir quelques échos sur ce qui se profile. Et donc le silence pesant qui l'entoure, il est un petit peu inquiétant. Alors on va voir, il sera probablement pas là à l'Assemblée Générale, enfin, il sera pas là, il nous l'a fait savoir. On essaie de faire en sorte qu'il nous fasse une contribution écrite pour nous dire ce qu'il pense de la situation et ce qu'il attend, lui, pour sa part de l'État. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à avoir de position claire de Joël Giraud. Donc, pour résumer, on se demande si, maintenant que Joël Giraud est l'ami d'Emmanuel Macron, on se demande s'il est encore l'ami de l'étoile ferroviaire de Vennes.
Voilà, notez que des annonces devraient être faites le 22 septembre lors du déplacement de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, à Saint-Léger-les-Mélèzes.
Un politique, et en voilà deux qui ne prendront sans doute pas l'avion ensemble.
La ligne entre Gap et Paris, la députée des Hautes-Alpes, Pascale Boyer, dit oui, son suppléant dit non. Bernard Renoir, ancien référent à La République en marge 05, s'est livré, je cite, à un petit calcul amusant sur Facebook, dans lequel il pointe d'un côté le coût du voyage trop élevé et de l'autre le peu de temps passé sur place. C'est la CCI ou les collectivités locales qui paieront. Riz jaune ou écrit jaune, le suppléant pour qui le TGV depuis Aix ou l'Airbus depuis Marseille restent les meilleures alternatives.
Il a pris la tête du groupement de gendarmerie des Alpes d'Haute-Provence il y a quelques jours.
Le lieutenant-colonel Laurent Gros, à 48 ans, ce père de famille originaire d'Alsace-Lorraine, devient donc le patron des 432 gendarmes d'active et des 160 réservistes du département. Laurent Gros a donc fixé le cap de ses prochaines missions.
Les grandes priorités, c'est avant tout, et c'est un peu le sens de la police de sécurité du quotidien, c'est toute la délinquance du quotidien, ces petits actes qui peut-être ne feront pas la une des journaux nationaux, mais qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. Donc les cambriolages, les sauts à la roulotte, les petits actes de délinquance sur lesquels nous devons avoir une action particulièrement importante. Ça, c'est quelque chose vers lequel nous emploierons. Deuxième axe, c'est évidemment la sécurité routière. Donc on a ici, dans les Alpes d'Haute-Provence, un réseau qui est vaste, qui attire énormément de personnes, notamment en été. On a énormément de motards et on a une accidentologie qui demeure un enjeu et qui ne doit pas être négligée, parce qu'il ne faut pas oublier que la sécurité routière, c'est aussi ce qui peut poser le plus de dommages d'un point de vue humain, et il faut vraiment qu'on s'attache à ce qui est le moins de tués et de blessés possible. Plus globalement, je dirais que, toujours dans la logique du contact qu'on souhaite renouer avec nos concitoyens, les priorités seront aussi celles que nous déterminerons des retours que nous avons des gens avec lesquels nous profitons, à côté desquels nous travaillons au quotidien, que ce soit la population ou aussi les élus ou les administrations partenaires. Voilà.
Laurent Gros qui était interviewé par notre correspondant Michel Bonnefoy.
On en vient aux journées du patrimoine dans certaines villes des Alpes du Sud. Ça va commencer ce soir.
Assisteront, l'accent est mis sur la richesse architecturale. Des conférences, des animations et des expositions seront proposées tout le week-end. Avec plusieurs nouveautés cette année, on écoute Franck Perard, adjoint à la culture et au patrimoine.
Il y a l'exposition Jean-Baptiste Olive quand même qui, du point de vue du patrimoine pictural, c'est quand même pas rien, puisqu'on a une vingtaine de toiles qui vont être présentées. Donc Jean-Baptiste Olive, c'est quand même le maître de la peinture provençale du 19e siècle. Et la ville de Sisteron présente à cette occasion une rétrospective pendant plusieurs semaines. Et donc pendant le week-end des Journées du patrimoine, on aura accès au musée Gallo-Romain à l'espace d'Ornano à cette exposition, donc ça c'est quand même des temps forts. On a également en nouveauté la distillation de lavande en direct sur un alambic de 1900, donc au magasin Absolu Lavande qui se trouve en face du musée Gallo-Romain. Et puis alors il y a une autre nouveauté aussi, c'est qu'à la cathédrale nous avons un orgue et nous avons une association qui fait vivre cet orgue. Le samedi à 18h, nous allons avoir un voyage au cœur de l'orgue avec un musique et une film d'animation. En réalité, c'est un espèce de film qui a été réalisé en allant sur toutes les pièces de l'orgue à l'intérieur et qui va être projeté sur écran géant, de sorte que les gens qui ne voient jamais l'orgue, en fait, hein, puisqu'il se trouve en partie haute derrière eux à la cathédrale, puissent découvrir chacune des pièces internes de l'orgue et comment un orgue fonctionne.
Voilà, des propos recueillis par Aurore Valory. Tout le programme à retrouver sur alpe1.com. Et ça va aussi bouger dans le Pays Sud, Serre-Ponçon, Ubaye, Durance.
Le territoire qui couvre une trentaine de communes du secteur donc a décidé de décliner le thème principal, l'art du partage, en trois sous-thèmes. La culture en partage, la nature et l'habitat. D'ailleurs, à ce sujet, c'est une nouveauté cette année, deux visites guidées d'un genre un peu particulier seront proposées à Embrun et Josy. On écoute Roger Mas, président du Pays Sud.
Nous avons choisi deux agglomérations, une grande et une petite, on va dire. On a choisi Embrun et on a choisi Josier. Nous se dérouleront des visites, qui ne seront pas des visites traditionnelles. Il s'agit d'une animation quelque peu ludique, un peu décalée également, pour présenter l'histoire, pour présenter l'architecture, d'une part, et en même temps pour questionner un peu les visiteurs sur ce qu'ils attendent demain de l'habitat en fonction du changement climatique. Pour nous, c'est un questionnement. Voilà. Donc, c'est une visite d'Embrun et de Josier. Pour Josier, c'est samedi à 15h et à Embrun, dimanche à 15h. Voilà, c'est une visite un peu insolite, un peu décalée, que nous avons expérimentée cet été. Ça a bien fonctionné, ça a intéressé les gens, parce que la visite étant interactive, on interroge les gens. Et ils sont très curieux, effectivement, de connaître et de proposer des idées sur l'habitat de demain.
Voilà, et dans ces Journées européennes du patrimoine, Roger Mas y voit également un moyen de mettre en valeur les monuments sélectionnés pour bénéficier des retombées du loto du patrimoine de Stéphane Bern. C'est le cas de la ville à la Sapinière, à Barcelonnette, Roger Mas.
Déjà la faire connaître, cette maison, c'est déjà le but, d'autant qu'il y a actuellement une exposition temporaire sur les Ubayens en Orient, en particulier qui est consacrée à Biskra, en Algérie, et voilà, donc il y a une sensibilisation au public sur la nécessité de restaurer un musée, c'est donc une invitation à les faire partager, à les faire participer à ce loto. Ben écoutez, elle a besoin de quelques dizaines de milliers d'euros, parce que le toit en particulier est à refaire, donc rien que là déjà c'est une dépense qui est considérable, et ensuite il y a certains travaux de réfection, d'isolation, parce que toutes ces villas ne sont pas isolées, et dans le cadre du Pays Sud, on a une mission énergie qui encourage tous les propriétaires à faire des efforts en matière d'isolation, et donc la villa La Sapinière rentre également dans ce cadre.
C'était Roger Mas, président du Pays Sud, Serre-Ponçon-Ubaye-Durance. Et puisqu'on parle de Serre-Ponçon, sachez que la centrale hydraulique ouvrira ses portes tout le week-end à l'occasion des journées de l'industrie électrique. L'idée, c'est de faire découvrir au public la production d'électricité ou encore le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. Plus d'infos sur alpe1.com.